Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 3 avril dernier, en Haute-Savoie, une chapelle a été profanée. Le 1er avril, dans le Morbihan, des tombes chrétiennes ont été vandalisées, soit taguées de croix gammées. Le 1er avril, également dans les Pyrénées-Orientales, cette fois, une école catholique a été vandalisée. Trois exemples tout récents parmi une longue liste d'actes anti-chrétiens qui, dans notre pays, seraient de plus de 2 par jour. Une réalité dont on parle peu, au point que certains dénoncent une véritable omerta. Qu'en est-il ? Quels sont les chiffres de ces actes ? Quels sont les motifs des auteurs de ces actes ? Mais aussi, que dit l'Église et ses pasteurs ? Et que faire ? Acte anti-chrétien, le vrai du faux, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Daniel Amiche, directeur de l'Observatoire de la Christianophobie, décidément j'ai du mal à prononcer les mots ce matin, qui est avec nous par téléphone depuis Paris, bonjour.
Bonjour Emmanuel, et puis bonjour bien sûr aux auditeurs.
Joseph de Kic, vous êtes prêtre, curé de la cathédrale de Saint-Alain à Lavore, dans le département voisin, dans le Tarn. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra à la fin de cette émission Mathias Terrier, qui est directeur du pôle communication du diocèse de Tarbes et Lourdes et du sanctuaire de Lourdes. J'allais commencer avec vous, Daniel Amiche, mais en arrivant ce matin, le père Joseph de Kic m'a dit « Bah tiens, j'ai une illustration de ces actes antichrétiens ou ces actes de vandalisme, puisque dans la nuit, si je ne me trompe pas, de dimanche à lundi, sur votre secteur paroissial, donc la paroisse Saint-Alain dans le Tarn, vous avez été victime de vol. On va peut-être commencer par vous, tout simplement. Racontez-nous cet événement.
Oui, voilà. Lundi, on m'a appelé pour me dire que l'église de Pibre, Saint-Jean-de-Pibre, qui est sur la commune de Lavore, vers la route de Toulouse, elle avait été cambriolée, tout simplement. Enfin, tout simplement, elle a été cambriolée. Voilà, donc j'ai demandé tout de suite, bien sûr, qu'est-ce qui s'était passé. Donc les portes ont été forcées, le portail, grand portail, et puis une petite porte sur le côté. Et en fait, il y a eu des vols. Il n'y a pas eu de vandalisme, dans le sens où il n'y a pas eu... rien n'a été déplacé volontairement ou saccagé. Il n'y a pas de signe non plus de profanation. Voilà, donc c'est vraiment un vol. Donc il y a eu 3 statues, 2 stations du chemin de croix, un autre tableau, le cierge pascal là où il est posé, voilà, et puis 2 candélabres. Voilà, ça nous arrivait donc dans la nuit de dimanche à lundi.
Alors vous êtes là aussi, on en parlera plus tard, parce que le 5 février dernier, donc la cathédrale de Saint-Alain a été vandalisée. On en parlera. On va commencer avec vous, Daniel Amiche. Donc, vous êtes directeur de cet observatoire de la christianophobie. Peut-être est-ce que vous pouvez commencer par dire un mot de cet observatoire. Depuis quand existe-t-il et quelle est sa mission ?
Alors, premier mot d'abord de féliciter monsieur le curé, qui vient d'ailleurs de nous révéler une information que je vais m'empresser, bien sûr, de mettre sur l'observatoire de la christianophobie. L'observatoire de la christianophobie a été créé en mai 2010. Donc nous allons bientôt entrer dans la 10e année de publication. C'est à l'initiative de laïcs catholiques, mais la particularité de ce blog, c'est qu'il est, comme je le dis, œcuménique, c'est-à-dire qu'il rend compte des actes antichrétiens qui sont commis, pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde entier. C'est une lourde tâche que j'assume tout seul, je n'ai pas beaucoup à le faire, donc tout seul, ça ne fait pas beaucoup, depuis presque 10 ans. Et à peu près 15 000 articles ont été mis en ligne.
Alors,
c'est de rendre compte de la réalité des actes de christianophobie anti-chrétien, si l'on préfère, dans le monde.
Alors, quand on se balade dessus, du coup, c'est vrai qu'on prend conscience bien davantage de ces actes anti-chrétiens. On voit que vous avez pas mal de relais, c'est-à-dire les gens vous font des remontées de terrain. J'aimerais qu'on commence par quelques exemples dans le sud-ouest. J'en citais quelques-uns en introduction qui ne concernent pas tous le sud-ouest, mais de fait, si on regarde le sud-ouest, on peut aussi en trouver beaucoup, ne serait-ce que dans les 2-3 derniers mois.
Oui, tout à fait. Bon, j'ai essayé de faire très rapidement hier, quand j'ai eu le script de votre émission, de faire un petit peu un état des lieux pour ce que j'appelle le Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire en fait les 13 départements qui doivent constituer ce Grand Sud-Ouest aujourd'hui. Il y a eu en vérité 10 cas que j'ai pu documenter. Alors, je les ai documentés, encore une fois. Je préfère faire une précision. Je ne prétends pas à l'exhaustivité de tous ces cas. C'est une chose absolument impossible. J'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de parler un peu des statistiques qui viennent de différents côtés, notamment du ministère de l'Intérieur. Et on verra aussi que même ces statistiques ne sont pas exhaustives. J'ai donc documenté 10 cas qui se sont passés. Alors, il y a eu effectivement cette affaire de la cathédrale de Saint-Alain-de-Lavaure, hein, dont M. le curé a parlé tout à l'heure, qui est dans le Tarn. Et puis, il y a eu comme 3 actes dans les Hautes-Pyrénées, 1 acte en Lot-et-Garonne, 2 dans les Pyrénées-Orientales, 1 dans les Landes, 1 en Aveyron, et 1 en Ariège.
Quand vous dites 10 actes, c'est quoi ces 10 actes l'année passée, c'est ou c'est les deux, trois mois passés, le mois passé?
Non, c'est, alors c'est sur les 3, pardon, je n'ai pas précisé, c'est sur les 3 premiers mois de cette année. Hein. Je ne suis pas allé, je n'ai pas commencé en avril, parce que je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Comme je vous dis, je suis tout seul, donc je fais ce que je peux. C'est donc j'ai pour l'instant recensé avec mes moyens évidemment 10 actes.
Et si vous deviez les caractériser davantage, ils sont de quelle nature?
Oui,
ce sont des vols ou des...
Il y a l'incendie survenu dans la cathédrale de Lavaure. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a un crucifix, ces crucifix qui sont sur la place publique qui ont été vandalisés à la Bastide. Il y a eu le vol de la quête de l'église anglicane de Pau, vous voyez, je traite aussi de nos frères séparés, et mais très proches dans nos prières et dans nos cœurs de chrétiens, et une église qui a été vandalisée à Andailles. Dans le Lot-et-Garonne, on a vu des tags sur l'église du Sacré-Cœur d'Agen. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a une librairie catholique qui a été vandalisée à Perpignan, et puis encore une église anglicane. Vous voyez, c'est curieux, il y a deux églises anglicanes ce premier trimestre, cette fois-ci à Vernay-les-Bains. Et dans les Landes, profanation, et voilà, une profanation, c'est plus grave, et vol dans l'église Saint-Sauveur de Saint-Guimet. En Aveyron, c'est le prieuré Saint-Jean de Balme qui a été vandalisé, et puis en Ariège, la croix, la fameuse croix, bien connue des Ariégeois, du tuc du Mont Calivet, qui a été vandalisée.
Alors justement, oui, ça tombe bien, j'allais rebondir là-dessus, c'est vrai que j'ai découvert ça sur votre site, donc cette croix qui a été vandalisée, et puis il y a même une pétition qui est en ligne pour la garder. Luttons ensemble contre l'intolérance et la bêtise humaine, parce que certains voudraient que cette croix soit détruite et qu'on l'enlève. Alors j'aimerais que maintenant qu'on fasse un point plus général, donc à l'échelle de la France, sur l'un de vos articles, on trouve ce chiffre, 878 actes en 2017, si je ne me trompe pas, ce qui fait 90% dont des actes de vandalisme à l'égard d'édifices religieux, et ce qui fait quand même 5 tous les 48 heures. Ces chiffres, ils sont du ministère de l'Intérieur, c'est ça?
Alors oui, c'est ça. Alors, c'est très compliqué. Vous savez, la question, comme on dit toujours, il y a 3 mensonges. Hein. Il y a le petit mensonge, le gros mensonge et les statistiques. Donc il faut se méfier beaucoup des statistiques et des chiffres. Alors le ministère de l'Intérieur, de toute façon, d'une année sur l'autre, ne communique pas les mêmes chiffres en vérité. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, les chiffres portant sur l'année 2017 ont été, me semble-t-il, réévalués en catimini pour l'année 2018. Ce qu'on peut dire, c'est que le chiffre qui est indiqué le 12 février dernier par le ministre de l'Intérieur, qui enregistrait 1063 actes anti-chrétiens commis en France, est en légère hausse d'un point de vue statistique par rapport à ceux de l'année 2017, puisqu'on en comptait à cette époque-là, à cette année-là, que 1038. Alors évidemment, le ministère de l'Intérieur dit que les chiffres sont stables. Enfin, c'est pas stable. On va voir que c'est toujours stable. Pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de réfléchir. Le problème avec les statistiques, et j'aurai l'occasion tout à l'heure peut-être de lire aussi d'autres commentaires sur ces questions de statistiques et de droit à l'information. Ces statistiques, c'est un gros paquet qu'on nous donne. Voilà, c'est 1063. Alors, ces 1063, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on ne sait pas exactement de la nature.
Vous voyez, il n'y a pas de détails, parce que moi j'avais vu vous avez publié par exemple un rapport des renseignements criminels de la gendarmerie 2018, où là il y avait un détail, il y avait dégradation, vol,
tout à
et puis
fait.
Des cimetières chrétiens profanés.
Voilà. Si vous voulez, le ministère de l'Intérieur ne donne pas ce qu'on appelle, moi, pardon, cette expression de typologie des actes. Il faut quand même comprendre qu'il y a une gravité qui n'est pas la même entre un tag qui est apposé sur le mur d'une église, ce qui est un délit. C'est pas très bien, c'est un délit. Et une église dans laquelle on met le feu, là, c'est un crime. Alors, ce que nous aimerions savoir, ce que j'ai demandé à plusieurs reprises depuis des années au ministère de l'Intérieur, c'est de nous fournir une typologie des cas, de façon à se rendre compte quels sont les phénomènes qui sont en croissance, quels sont ceux qui sont en stagnation, quels sont ceux qui diminuent. Ça peut diminuer. Ce dont je m'aperçois, moi, au fur et à mesure des années, c'est que les actes vraiment de profanation sont en augmentation, légère mais augmentation continuelle.
Donc profanation, juste vous pouvez repréciser pour ceux qui ne sont pas familiers ce que ça veut dire.
C'est, profanation, c'est attenter à la sacralité d'un autel, c'est forcer un tabernacle pour y répandre ou voler les hosties, ça c'est une profanation. Alors, encore une fois, si on met un tag sur une église, il n'est pas besoin à l'évêque de se déplacer pour, pour réconcilier l'église. Par contre, si la pierre d'autel ou l'autel a été saccagé, incendié, vandalisé ou qu'il y a commis des tas d'horreurs, et si la sainte réserve a été profanée, répandue sur le sol ou emportée pour je ne sais quel usage, il est donc là, il y a une cérémonie nécessaire de réconciliation de cette église. Et le culte, en principe, doit être suspendu. Il l'est d'ailleurs de plus en plus souvent. Hein. Donc, de ce point de vue-là, les choses se font. Alors, ce que je souhaite, moi, effectivement, et c'est très important, c'est pas pour moi, c'est pas moi, Daniel Amiche, qui est très important dans l'affaire, c'est le public, c'est l'opinion publique, à commencer par l'opinion publique des chrétiens. Nous voulons avoir plus de détails sur les actes qui sont commis. Voyez-vous, si j'ai fait des calculs, je peux pas vous les dire ici, parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais sur la base d'autres découvertes que j'ai faites dans des journaux, etc., plus proches peut-être des sources gouvernementales que mon pauvre et humble observateur de Christian Fomy le lait, on peut dire qu'il y a eu, en 2017, 626, ça j'en suis sûr, c'est le ministère qui m'avait confié, mais il y a déjà deux années, 626 actes contre des lieux de culte chrétien, je précise bien des lieux de culte chrétien. Et en 2018, il y en aurait un peu plus de 800.
Voilà, ce qui fait quand même une augmentation significative. Alors juste, donc c'est vrai qu'il faut rapporter ça aux autres chiffres. Pour 2017, donc on avait cité 878, enfin c'est ce que j'avais trouvé dans un de vos articles, il y en avait 28 à l'égard d'édifices et des sépultures juives, 72 à l'égard d'édifices et de sépultures musulmanes. C'est vrai que la première remarque qui vient, c'est qu'on se dit bah, il y a beaucoup plus d'églises en France, tout simplement. Alors comparaison n'est pas raison, mais est-ce que ça peut être une première explication, Daniel Amiche?
C'est pas une explication, parce que je veux juste préciser une chose, parce que de 626 en 2017, un peu plus de 800 en 2018, ça fait 28% d'augmentation. C'est quand même pas, c'est pas stable au niveau quand même du nombre. C'est une grosse augmentation. 28%, c'est beaucoup quand même, hein, sur deux ans. Alors, sur cette question maintenant, évidemment, oui, mais comme il y a plus d'églises en France, il est normal que... Non, les églises sont attaquées parce que ce sont des églises. Les synagogues sont rarement attaquées parce que ce sont des synagogues. Les mosquées sont rarement attaquées parce que ce sont des mosquées. La question n'est pas de savoir qui a le plus grand nombre de lieux de culte. La question, c'est de savoir, parmi les lieux de culte qui sont en France, quels sont lesquels qui sont les plus fréquemment attaqués, vandalisés, profanés. C'est ça la question qu'il faut se poser, et ensuite s'interroger pourquoi, et puis, dans la mesure du possible, par qui.
Alors Daniel Amiche, justement, l'autre grande question qui vient tout de suite, c'est la nature de ces actes. On verra par exemple pour la cathédrale Saint-Alain de Lavaur avec vous, donc Père Joseph de Kick. Au début, on a parlé, on s'est scandalisé légitimement de ces actes, et puis après vous êtes rendu compte que les motifs étaient peut-être moins anti-chrétiens que ce qu'on avait pu imaginer. Ça, on imagine aussi que c'est très difficile, Daniel Amiche, de connaître évidemment de faire une typologie même des intentions, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Alors, c'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que, vous savez, les sources elles-mêmes sont muettes très souvent sur ces questions. Mes sources, à moi, ce sont... En fait, c'est la presse locale, hein, c'est la presse régionale locale. C'est là, vraiment, le vivier dans lequel on peut pêcher le plus d'informations. Quant à la presse nationale, Le Figaro, Le Monde, Libération, ça les intéresse pas beaucoup. Enfin, sauf peut-être le Figaro qui a fait un dossier il y a une douzaine de jours. Intéressant, d'ailleurs. Bon. Mais c'est local, c'est le local qui m'intéresse, parce que c'est de là d'où ça vient. C'est le tissu, si vous voulez, qui nous permet ce tissu, ce maillage que fait la presse locale, tous médias confondus, mais enfin essentiellement la presse écrite, hein, nous permettent d'avoir beaucoup d'informations. Les autres informations viennent aussi du public, c'est-à-dire de personnes. Ça peut être des personnes qui ont vu en passant devant une église qu'il y avait un tag, même s'ils ne sont pas paroissiens de cette église. Ce sont des gens qui sont paroissiens, qui ont assisté ou qui ont constaté un acte et donc qui me le signalent. Ce sont des prêtres, très souvent des curés aussi, qui me signalent des actes, et même des évêques, hein, je dois le dire honnêtement. Il y a quelques évêques qui sont coopérateurs. Pas tous, mais enfin certains, quelques-uns sont coopérateurs. Alors savoir qui fait ça et pourquoi on le fait, encore une fois, moi, je donne des informations, hein, et je donne toujours une description de l'acte qui s'est commis sur les meilleures sources, en les recoupant autant que faire se peut, de telle sorte de donner quand même des informations précises au lecteur de l'Observatoire de la christianophobie. La question de savoir quelle est l'intention là, ne relève pas de
Alors, on a compris, mais dans ces cas-là, j'ai une autre question. Si la nature de l'acte, évidemment, l'intention est très difficile à expliciter, c'est la question de l'omerta. Vous disiez, pour vous, il n'y a pas assez d'écho médiatique. D'ailleurs, de temps en temps, vous envoyez des petites piques sur votre observatoire. Le journal La Croix en a pris pour ses frais. On prend pour ses frais, d'ailleurs, dans un de vos articles, laissant entendre que pour vous, ils ne sont pas assez informés. La Croix, le compte n'y est pas. Vous rapportez que récemment, donc, il y a eu cette double page dans le Figaro, que Le Monde aussi s'y intéressait. Omerta, qu'est-ce que ça veut dire, Daniel Amiche, quand on utilise ce terme ou quand vous l'utilisez, qu'est-ce que ça veut dire ?
Omerta. Je n'utilise pas le mot omerta. C'est vrai que pendant de longues années, il y a eu la preuve, c'est que je vous dis, la plupart de mes informations viennent de la presse. Donc il n'y a pas d'omerta du point de la presse. Il y a des informations qui sont données. Encore faut-il les trouver, et c'est la difficulté de mon travail. Et c'est pourquoi je le fais. C'est pour les trouver, ces informations. Et il y a de moins en moins d'omerta. Je dois reconnaître que, je dirais, vous savez, on a eu ce mois de février, enfin vous avez, vous, en tant que journaliste, été sensible à ça, c'était le mois absolument record d'actes anti-chrétiens en France, de mémoire d'observateurs de la christianophobie. Ça fait 10 ans que je suis là, je n'avais jamais vu autant d'actes commis, puis il y en a eu, moi j'en ai recensé 50. Et d'autres sources, on parle de 66. Moi, j'en ai recensé 50. 15 vandalismes, 10 profanations et 16 vols. Bon, dans des églises, des chapelles, etc. C'est énorme. Je crois qu'il y a eu, en février, une espèce de prise de conscience, dans l'opinion publique d'abord, et puis aussi dans les médias. Je n'ai jamais été, depuis février, aussi sollicité pour des interviews, des réponses à des questionnaires, jamais tant. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de dossiers qui apparaissent dans la presse. Le dernier en date, je crois que c'est celui de France Catholique, là, l'hebdomadaire. Il y a eu également Famille Chrétienne qui a consacré un dossier là-dessus. Il y a eu le magazine Causeur, dont c'est une live raison d'avril, qui est un dossier qui pourrait être très bon, mais enfin c'est un dossier quand même intéressant. Je vois quand même qu'il y a l'omerta est brisée. Alors c'est quand même un phénomène intéressant. On souhaiterait qu'on en parle davantage dans les grands médias, par grands médias, je ne veux pas dire des grands médias au niveau de la qualité, juste grands médias au niveau de la diffusion. C'est vrai qu'une annonce qui est diffusée sur TF1 a plus de retentissement qu'un écho qui paraît dans le petit bleu des côtes du Nord. Ça tombe sous le sens. Bon, moi je suis là pour être un peu la caisse de résonance, de traiter tous les actes qui me sont signalés, je peux vérifier, de les documenter, c'est-à-dire de dire où, quand, comment, quel est le nom, etc., à quelle paroisse appartient cette église, de donner le maximum d'informations, de donner dans la mesure du possible, évidemment, des illustrations des faits, on ne les a pas toujours.
Et des photos, on voit aussi des photos.
Des photos, hein. Et des photos, voilà, qui sont souvent d'ailleurs fournies par les intéressés ou les victimes, donc on les publie très 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 volontiers, et puis ensuite on participe aussi, je veux dire, souvent, quand il y a eu des cas sur lesquels, par exemple, la gendarmerie nationale est un petit peu, ne sait pas trop pas comment les prendre, on donne le numéro de téléphone de la brigade de gendarmerie nationale qui s'occupe d'un cas de vandalisme, de vol ou d'incendie contre une église, en espérant que parmi les lecteurs se trouvera quelqu'un qui aura vu quelque chose. On ne sait jamais, ça peut arriver.
Merci beaucoup Daniel Amiche, en tout cas d'être venu au micro de Vivante Église ce matin. Rendez-vous est donné aux auditeurs sur le site internet de votre observatoire, l'Observatoire de la Christianophobie. On va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités, entre autres le père Joseph De Kick, qui va nous parler de ce qui s'est passé à Lavaur. C'était le 5 février dernier. Un feu s'est déclaré dans la cathédrale Saint-Alain de Lavaur. Acte de vandalisme, on en parle dans quelques minutes.
Emmanuel Pella.
Acte antichrétien, le vrai du faux, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, on était au début de cette émission avec Daniel Amiche, directeur de l'Observatoire de la christianophobie, qui était avec nous par téléphone depuis Paris. Autour de ce plateau, Joseph Dequic, vous êtes prêtre, curé de la cathédrale Saint-Alain à Lavaur dans le Tarn, et nous rejoindra un petit peu plus tard dans l'émission Mathias Terrier, directeur du pôle communication du diocèse de Tarbes et Lourdes et du sanctuaire de Lourdes pour une initiative heureuse. J'aimerais donc que l'on parle maintenant de ce qui s'est passé à la cathédrale de Lavaur. Alors pardon pour les auditeurs qui ont suivi ça, on va dire de très près. On va partir du principe que cela a échappé à d'autres. C'était donc le 5 février dernier. S'est déclaré un feu dans votre cathédrale, la cathédrale Saint-Alain. Vous vous souvenez de la manière dont ça s'est passé? Vous avez à un moment senti la fumée? Quelqu'un est venu vous prévenir? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Donc c'est la personne qui habituellement ferme la cathédrale, qui en rentrant a vu cette fumée dans la cathédrale. Donc elle était surprise et elle est venue me trouver. Moi je sortais de la messe et donc ils ont frappé à ma porte et puis en disant il y a de la fumée dans la cathédrale. Donc je me précipite, bien entendu, hein, je descends et je rentre dans la cathédrale. Et donc je vois cette fumée. Donc je fais rapidement le tour pour voir s'il y avait du feu ou pas. Je sors parce que c'était assez irrespirable. Il n'y avait pas de feu. Et j'appelle les pompiers immédiatement. Voilà, c'est la première chose que je fais, c'est d'appeler bien sûr les pompiers, qui sont arrivés assez vite. Les gendarmes sont arrivés aussi en même temps. C'est eux qui ont fait le tour de la cathédrale et puis très vite ils se sont rendus compte que c'était qu'il y a eu un feu mais qui était éteint. Il n'y avait plus de flamme du tout. Un feu sur un autel latéral d'une petite chapelle. Voilà, donc on s'est rendu compte de ça à ce moment-là.
Après, vous avez découvert d'autres actes de vandalisme. Vous pouvez peut-être les décrire, dont un qui peut peut-être choquer plus que d'autres.
Ce qu'on a vu après, on a un peu regardé, on a fait le tour un peu de toute la cathédrale déjà pour voir, et puis on s'est rendu compte que dans cette chapelle, hein, la chapelle du Sacré-Cœur, il y avait des Christs qui avaient été renversés, et puis dans le confessionnal qui était juste en face de l'autel du Sacré-Cœur, il y avait un Christ qui a été tordu. Hein, voilà, on a tordu un des bras. Voilà. Et on a su après que le Christ de l'autre côté de ce confessionnal avait été jeté dans la rivière à côté, la rivière de la Goutte.
Donc il y avait un Christ qui avait un bras tordu, comme un, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais je crois que c'est un signe pour les jeunes d'une danse ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, c'est ça. C'est un geste.
Vous, en regardant les vidéos hier, en préparant cette émission, j'ai vu que vous aviez dit sur le moment que pour vous c'était un acte dramatique, il y avait quelque chose vraiment de choquant. Ça a fait le tour de la presse, on va dire locale et nationale. On a entendu donc votre maire Bernard Carayon dire Dieu pardonnera mais pas moi. Laurent Wauquiez est venu, on en parlera. Et puis au fur et à mesure des jours, les choses se sont éclaircies. Et donc vous savez aujourd'hui qui sont les deux auteurs de ces dégradations. C'est donc deux jeunes lycéens de 17 ans. Et dans un mot que vous avez écrit donc pour Le Petit Messager, qui est j'imagine le journal paroissial, vous écrivez la chose suivante. Deux jeunes lycéens de 17 ans, désœuvrés un mardi après-midi pluvieux, se sont réfugiés dans la cathédrale Saint-Alain en attendant les transports scolaires. Et puis après, en gros, ils ont fait des bêtises entre potes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la manière dont ça s'est éclairci?
Alors, donc moi j'ai porté plainte, bien entendu, hein, parce que c'est quand même un acte grave hein, qui a été posé. Et
grave pourquoi? Alors expliquez-nous.
Alors grave.
Pourquoi c'est grave?
Parce que ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Parce que si le feu avait pris un peu plus, c'est quand même un lieu qui est absolument magnifique. Hein, c'est une cathédrale du XIVe siècle.
Qui venait d'être restauré en plus, non?
Qui a été, voilà, pendant, on est en train de terminer la restauration, et il y a eu 5 ans, 6 ans peut-être même en tout, de restauration. Donc tout a été refait et en train d'être terminé. Et donc, c'est l'État qui a financé, la région, la
2 millions d'euros, je crois, hein, c'est ça?
Pardon?
Il y a eu 2 millions d'euros, je crois.
2 millions d'euros de dépenses. Donc, c'est un lieu qui est magnifique, qui est très beau, qui a un sens. Alors, déjà, pour beaucoup de personnes, pour les touristes, ça a un sens culturel. Hein, mais pour les chrétiens, c'est aussi un lieu d'histoire. Hein, c'est un lieu qui a d'histoire chrétienne, hein, d'une vie chrétienne forte pendant très longtemps. Donc, voilà, c'est dramatique pour ça. Parce que ça aurait pu l'être plus grave. Et aussi parce que c'est un lieu aussi, c'est une église. C'est un lieu quand même de la présence présence de Dieu, où les chrétiens se rassemblent. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose de grave.
Donc vous avez porté plainte. Alors comment ça s'est éclairci en fait? Les deux malfaiteurs se sont eux-mêmes dénoncés? C'est les parents qui sont venus?
Alors,
c'est...
Donc les jeunes très vite se sont rendus compte qu'ils avaient fait une grosse bêtise. Donc il y en a un qui s'est dénoncé très vite et l'autre est venu dans la suite, quoi. Enfin, ça s'est fait assez, très très vite. Hein. Le lendemain, je crois qu'ils se sont rendus à la gendarmerie. Ils sont venus à la gendarmerie avec leurs parents, hein, pour raconter les faits.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit des motifs de leur acte en fait?
Alors
ils
après,
ont dit, de fait, on s'ennuyait et puis on a fait n'importe quoi.
Alors après, donc moi aussi, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai voulu les rencontrer quand même. Donc j'ai dit aux gendarmes, d'abord comme il y avait eu aussi cette fumée. Qui était toxique et qui a fait une suie grasse qui est tombée partout. Donc on a dû tout nettoyer à l'intérieur de la cathédrale, défaire tous les bancs, il y a au moins 800 places assises. Et donc on a fait ça assez vite. Et quelqu'un, un paroissien me dit, mais il faudrait qu'ils viennent nous aider. Alors je dis, ma chiche. Donc j'appelle les gendarmes et je leur dis, est-ce que vous pouvez pas appeler les parents et les jeunes pour venir nous aider? Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc il y a un jeune avec ses parents qui, le samedi matin, sont venus tout remettre en place. Voilà. Et à la suite de ça, j'aurais dit, ben voilà, on va aller parler dans mon bureau. Et donc, on a discuté. On a passé du temps pour discuter. Moi, je voulais savoir qui ils étaient et puis connaître un petit peu leur motivation aussi. C'est là où ils m'ont dit qu'ils regrettaient profondément, que c'est eux qui m'ont dit que c'était des bêtises de jeunes, qu'il n'y avait pas d'intention antichrétienne, il n'y avait aucune intention antichrétienne derrière ces actes qu'ils ont posés. Alors, c'est ce qu'ils me disent après. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur intention le mardi après-midi? C'est toujours difficile à savoir, bien sûr. Parce que c'est pas neutre, quand même, de faire des actes comme cela dans la cathédrale. C'est pas simplement chahuter avec les copains dans la cathédrale en faisant un peu de bruit, en mettant l'eau du bénitier par terre ou en cassant quelques cierges. Non, hein, mettre le feu, il faut quand même le faire. Hein, et puis renverser ses crucifix, les abîmer. Bon, donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas.
Qu'est-ce que ça dit, selon vous, ou qu'est-ce que vous avez pu comprendre de la culture dans laquelle ils évoluent? Est-ce qu'on peut extrapoler comme ça?
Alors, oui, moi c'est ça un peu ma question, hein, par derrière. C'est que j'aurais demandé s'ils étaient chrétiens, donc ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas chrétiens. Alors je ne sais pas s'ils sont baptisés ou pas, hein, je ne vais pas rentrer après dans les détails. Mais c'est vrai que moi ma question c'est qu'est-ce qu'ils ont reçu, eux, dans leur histoire? Au niveau de l'école aussi, au lycée, puisque le lycée est à côté, du sens des lieux, par exemple, des lieux comme la cathédrale Saint-Alain, comme une église. Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une église, profondément? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le christianisme? On est quand même dans un pays où
est-ce que c'est qu'un crucifix aussi, peut-être?
Est-ce que c'est qu'un crucifix, bien entendu. Hein, on est dans un pays où des racines chrétiennes, elles sont quand même fortes, même si parfois on voudrait un peu le nier, et on voudrait en trouver beaucoup d'autres. Il y en a d'autres aussi, c'est une évidence. Mais la France a quand même été un pays profondément chrétien, et il suffit que dans les villages, il y a des églises partout.
Hein, on
a...
Et ça, par exemple, vous avez, c'est peut-être indiscret, hein, mais pour eux, Jésus, c'était un personnage historique, hypothétique, mythique.
Je crois qu'ils savent pas. C'est ça. Moi, c'est ça qui me paraît inquiétant, c'est qu'ils ne savent pas. Hein. Alors, déjà, ils n'ont pas de culture chrétienne. Mais c'est vrai aussi, parfois aussi, même de ceux qui se disent chrétiens, par exemple les jeunes couples qui demandent le baptême, parfois quand on pose des questions, des choses évidentes sur la vie chrétienne, parfois ils ne répondent pas, ils savent pas. Alors eux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas été éduqués dans une famille chrétienne, ils savent encore moins.
Donc pour eux, c'était un lieu, on va dire, culturel comme un autre, peut-être, où ils pressentaient qu'il y avait une dimension religieuse, mais rien de plus.
À mon avis, ils devaient savoir, parce que faire des gestes quand même un petit peu comme ça, donc ils devaient savoir. Alors, entre la, hein, l'émulation de lycéens après une journée et faire des actes parce qu'il y a une intention vraiment contre quelqu'un ou une religion, voilà, c'est difficile à savoir quand même. Même dans la discussion, c'était pas si facile que cela à savoir.
Alors, au sujet de cet événement et au sujet de plus largement de toutes ces agressions, tous ces actes antichrétiens, en tout cas qui visent des édifices religieux, j'ai pas posé la question à Daniel Amiche, mais je ne crois pas trahir sa pensée et de celle de d'autres qui s'étonnent parfois du silence des évêques ou en tout cas des condamnations discrètes, voilà, qui ne font pas beaucoup de bruit. conflit? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est là la juste attitude de l'Église?
Alors, il faut toujours être très, très vigilant aussi. Quand on dit l'Église n'a pas dit, l'Église devrait prendre position, les évêques devraient parler un peu plus fort, parce que quand on discute avec eux, en règle générale, eux parlent beaucoup. Hein, et où ils écrivent, où ils interviennent.
On les écoute pas.
Et c'est ça, c'est que le message ne passe pas. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le message passe quand il y a une petite phrase qui fait choc. Et peut-être que nos évêques n'ont pas dans leur
il faut qu'ils fassent du media training alors.
C'est peut-être qu'il faudrait il faudrait que dans leur des stages dans leur équipe de communication peut-être pour apprendre à savoir passer sur celui qui va être le premier sur la ligne de communication.
Le pape François est très fort là-dessus. Je ne sais pas s'il a du media training, mais
voilà. Hein. Et le maire de Lavaur aussi était très fort hein, par la phrase qu'il a utilisée. Hein, même si bon, je prendrai pas position sur ce qu'il a dit, mais alors je crois que l'Église elle dit
Dieu
beaucoup de choses.
Dieu pardonnera pas moi. Je rappelle juste la petite
phrase.
C'est
ça, donc voilà. Et ça s'est passé, parce que c'est vrai qu'une phrase comme ça, hein, qui a été dite très vite, elle est passée partout. Et quand je parlais de ce qui s'était passé à Lavaur, tout de suite on me disait « Ah oui, mais votre mère a dit ça ». Alors nos évêques, je crois qu'ils parlent, ils ont parlé, le nôtre aussi a parlé, hein, mais c'est pas passé, hein, c'est pas passé dans les médias, hein, sur la voilà, en tête.
Donc l'Église doit être prudente, elle doit peut-être apprendre à communiquer autrement, c'est ce qu'on entend. Vous, en tout cas, quelle est la manière dont vous avez abordé cette difficulté, donc ce drame, puisque vous avez dit au début que c'était un drame, comme pasteur, comment est-ce que vous avez réagi?
Alors donc pour moi, avec les jeunes, j'ai discuté tout de suite, je leur ai dit que pour moi, en tant que prêtre, il y avait la justice et la miséricorde, et qu'il fallait tenir les deux. Hein, que la justice, ça voulait dire que quand on pose des actes, il faut assumer les conséquences, et c'est normal qu'on assume les conséquences. Donc c'est pour ça que j'ai porté plainte, et ils ont dû voir certainement le juge pour enfants, et qu'il y aura certainement des décisions judiciaires qui seront prises par la suite. Donc ça me paraît logique, hein, et qu'ils puissent réparer. Déjà, le fait qu'ils soient venus aider... Bon, j'aimerais bien que par exemple les décisions soient prises comme ça, c'est que ces jeunes, eh bien, pendant 3 mois, ils soient obligés de venir nettoyer l'église une heure par semaine. Moi, je trouve que ce serait très bien, c'est normal. Ça, c'est du domaine de la justice. Il faut que la justice soit vécue et soit réelle. Hein. Mais en même temps, aussi, il y a la miséricorde. Alors, la miséricorde, moi, je suis prêtre. Hein, je suis prêtre et donc je suis ministre de la miséricorde aussi. Hein, et, bon, c'est vrai que Dieu pardonne quand on va vers lui et qu'on lui demande pardon. C'est le sens du carême, c'est le sens du sacrement de la réconciliation. On va vers lui, on reconnaît les faits, on demande pardon, on est prêt à réparer, et Dieu pardonne. Voilà. Et donc, moi, en tant que prêtre, je veux être ministre de cela.
Alors qu'est-ce que vous avez fait, raconter?
Alors, donc, quand les jeunes sont venus, je les ai d'abord écoutés. J'ai pas dit je pardonne tout de suite. J'ai attendu, bien entendu. Et j'ai fait attention qu'ils s'expriment et qu'ils expriment surtout leurs regrets et leur désir aussi de réparer. Alors, à partir de ce moment-là, moi, j'ai dit, moi, je vous pardonne. Et puis, je serai prêt aussi à vous aider. Si vous avez besoin, moi, je suis prêt à vous aider. Et je les ai même invités à aller tous les vendredis à midi, juste devant la cathédrale Saint-Alain. Il y a l'aumônerie des lycéens, avec une permanence. Donc, je les ai invités à rejoindre cette aumônerie.
Et vous avez pris aussi un temps de prière avec eux.
Alors, c'est ça. Donc, ça, c'était le samedi, quand ils sont venus ranger. Donc, j'ai voulu faire un geste symbolique. C'est-à-dire que quand on a rangé, là, tout était prêt... J'aurais demandé de venir devant la statue de la Vierge Marie où les gens viennent prier beaucoup et les gens mettent des cierges. Alors, comme il avait allumé avec un cierge, j'ai dit, ben voilà, je te demande d'allumer un cierge et tu vas le mettre devant la Vierge Marie. Et maintenant, moi, je vais prier pour toi, pour tes copains et pour ta famille. Et c'est ce que nous avons fait. Parce que je crois qu'il faut faire des gestes forts. Voilà. Il ne faut pas non plus que ces jeunes soient écrasés par les actes qu'ils ont pu faire. Il faut aussi les aider à aller de l'avant, à se reconstruire et à comprendre les choses, tout simplement.
Alors, il y a une question, c'est la question de la récupération politique. Alors, pardon pour Laurent Wauquiez, si ma question peut laisser entendre que c'était son intention profonde, probablement n'était-ce pas le cas. Mais Bernard Carayon, donc, qui est le maire de Lavaur, qui est donc des Républicains, qui je crois aujourd'hui est sur la liste de Laurent Wauquiez, hein, pour les européennes, c'est ça?
Oui.
Donc a invité donc Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez donc s'est rendu à la cathédrale Saint-Alain et il a voilà avec la presse était présente. Il a dit la chose suivante: ici à la cathédrale Saint-Alain de Lavaur, profanée la semaine dernière, on se demande comment notre pays a pu en arriver là. Les profanations se multiplient dans l'indifférence, c'est intolérable, il ne doit pas y avoir d'omerta. On pourrait se dire déjà que profanation, c'était peut-être un peu fort. Hein ?
Oui, oui. Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques de récupération politique ? Parce qu'en même temps, il a eu le courage de venir et de dire les choses aussi.
Oui. Alors, moi, je crois que c'est le maire. Bon, je crois que c'est le maire qui était là tout de suite, hein, d'ailleurs. Hein, je crois que c'était juste aussi qu'il soit là, parce que il est responsable de cette cathédrale en tant que premier magistrat de la ville. Hein, mais en même temps, c'était normal aussi qu'il réagisse de manière un peu virulente, parce que c'est vrai que après 6 ans de travaux, 6 ans d'efforts financiers qui sont pas terminés encore, hein, 6 ans où il y avait vraiment une préoccupation pour que ce lieu soit un lieu magnifique. Je comprends qu'il y ait une colère. Je la comprends très bien de la part de notre maire. Moi aussi, j'ai une colère sur le moment aussi par rapport à ces événements. Mais lui, il a d'autres responsabilités. Et puis, il y avait tous ces projets qui ont été mis en œuvre. Donc, voilà. Après que les hommes politiques interviennent, viennent, mais ils font leur travail, moi je crois, ils font leur travail. Bon, s'il y avait eu d'autres hommes politiques qui avaient demandé pour venir, ben j'aurais été là, j'aurais été présent. Hein, donc, et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui sont intervenus. Hein, dans tous les actes dont on a parlé, même tout à l'heure au début de l'émission, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui s'indignent, tout simplement. Hein, on parle beaucoup plus, ils vont parler quand c'est des actes antisémites ou contre les mosquées ou je sais trop quoi. Là, quand c'est pour les chrétiens, on n'entend pas beaucoup de choses. Hein, donc c'est vrai que c'est quand même inquiétant hein, en France qu'il n'y ait pas de réaction.
Alors ça sera justement ma dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause musicale. C'est quand on entend tout à l'heure Daniel Amiche dire qu'entre 2017 et 2018, je crois, il y a une augmentation de 20%, si je ne me trompe pas, que le mois de février a été un mois noir avec plus de 50 actes anti-chrétiens, en tout cas à l'égard d'édifices religieux, chose qu'il n'avait jamais vue en 10 ans. Qu'est-ce que ça dit sur notre société française, vous croyez ?
Ça dit aussi des choses sur l'Église, avant de parler de la société française. Je crois que l'Église, elle vit quand même un moment un peu difficile, avec toutes les révélations qui se font, hein, et on voit bien toutes les victimes hein, des abus qu'a pu avoir ces dernières années, créer aussi un climat de défiance envers l'Église. Donc je crois que l'Église, elle est quand même en difficulté, et que des personnes fassent des raccourcis un petit peu rapides, jugeant toute l'Église à l'aune de toutes ces révélations, ben, ça va vite, et qu'après ceux qui sont un peu plus remontés posent des actes, des tags ou des actes comme ça. Voilà, c'est ce climat-là aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai qu'aussi dans notre monde actuel, où Dieu a l'air d'avoir été mis un petit peu de côté, je crois que on a oublié des valeurs fondamentales, hein, de respect, pas simplement respect des lieux, mais aussi respect des personnes, respect du sacré. Voilà, je crois qu'il y a à retrouver tout cela. Hein. C'est ça qui, moi, me semble important aujourd'hui.
On va faire une deuxième pause et puis vous restez avec nous. On va retrouver Mathias Terrier, donc directeur du pôle communication du diocèse de Tarbes et Lourdes et du sanctuaire de Lourdes pour une initiative heureuse de ce diocèse qui a invité à l'occasion de ce carême, mais cette initiative va se prolonger, à prendre soin des croix et autres signes religieux dans les villages et dans les villes de ce diocèse.
Cracurpi, yo te conocí, Campa Guagaipa, duélete de mí, Campa Guagaipa, duélete de mí, y Mapa Crapurpí, yo te conocí, y Mapa Crapurpí, yo te conocí.
À Mirande, 104.2.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Acte antichrétien, le vrai du faux, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau donc il y avait au début de cette émission Daniel Amiche, directeur de l'Observatoire de la Christianophobie, avec nous le père Joseph Dekic, qui est curé de la cathédrale Saint-Alain à Lavore dans le Tarn, et nous a rejoint donc Mathias Terrier, directeur du pôle communication du diocèse de Tarbes et Lourdes et du sanctuaire de Lourdes, et président de Radio Présence à Lourdes. Bonjour Mathias.
Bonjour à tous.
Merci de prendre un petit peu de temps avec nous en cette fin d'émission, donc pour mettre un coup de zoom et finir sur une note heureuse. Une opération qui a été lancée donc par votre diocèse, l'opération Nettoyons les croix de nos villages. Mais avant que vous nous en parliez, j'avais juste une question. Est-ce que les actes antichrétiens dans les Hautes-Pyrénées vous en avez quelques-uns en tête? Est-ce que ça fait partie quelque part du quotidien aussi d'un directeur de la communication?
Sur ce sujet, moi, ma réponse, elle sera assez prudente, c'est-à-dire qu'il y a un point d'attention qu'il faut avoir. Il arrive, comme c'est arrivé récemment, que des croix ou des, on va dire, des signes religieux soient touchés, attaqués. C'est arrivé récemment dans un de nos villages, mais après enquête, on s'est rendu compte que ça n'était pas un acte antichrétien, que c'était vraiment des trublions qui avaient commis ça nuitamment, alcoolisés, voilà. Donc faut faire attention à ne pas, en fait, donner un sens trop vite à des actes qui peuvent apparaître comme tels. C'était ça le point de prudence.
Voilà, donc on entend la remarque, et c'est vrai que c'est aussi la question qu'on posait à Daniel Amiche au début de cette émission. Quand on dit qu'il y a deux actes antichrétiens par jour, qu'est-ce qu'on met derrière? Il nous dit que c'était très difficile de connaître les intentions. Alors cette opération, Nettoyons les croix de nos villages, est-ce que vous nous expliquez comment l'idée vous est venue? Ça a commencé le 6 mars, ça durera jusqu'à la Pentecôte, donc le 9 juin prochain. Comment l'idée vous est venue et en quoi consiste cette opération?
D'abord, l'idée, elle est venue d'une orientation pastorale de l'évêque de Tarbes et Lourdes qui invite tout son diocèse à être en mission, à chaque baptisé à l'être. Et puis après, une fois qu'on a cette intention missionnaire, on croise ça tout simplement avec ce qu'on appellerait la piété populaire. La piété populaire, qui est chère au cœur du pape François, ben, elle consiste à prendre en compte ces réalités de proximité simples. Et dès lors, les croix, qui sont un peu partout disséminées sur nos territoires, ben sont le signe évident d'une piété populaire ancestrale, ancienne, longue, fidèle, plus ou moins fidèle. Et c'est de là qu'est née cette idée de regarder où nous en étions de l'annonce de la foi en regardant les croix qui sont dans nos villages. Sont-elles entretenues? Sont-elles peu entretenues ou laissées à l'abandon? Et alors elles disent de là où nous en sommes, de l'annonce de la foi, quelque chose d'assez simple au fond, vous voyez.
Avec parfois des croix aussi qui sont des croix de mission. Hein,
Oui, alors c'est des croix qui ont été installées à l'issue d'une mission paroissiale parfois, d'autres fois des croix qui sont installées dans des lieux très ruraux, qui sont le signe de rogation, donc de pratiques un peu anciennes, hein, vous voyez, de bénédiction, des champs, des récoltes. Ça peut être des croix installées par des familles, par des communautés. Elles sont souvent quand même sur l'espace public. Donc, ces croix sont aussi un patrimoine de la communauté, pas seulement chrétienne, de la communauté villageoise ou de la communauté de vie qui est là, installée. Dès lors, les regarder, voir dans quel état elles sont et inviter à les rénover ou à les nettoyer, c'est tout simplement peut-être... oser redire sa foi, oser redire son attachement à des valeurs et à une foi en Jésus-Christ.
Alors sur le site de votre diocèse, on trouve donc l'invitation suivante. Nos croix ont besoin la plupart du temps d'un bon coup de nettoyage. Il s'agit pas de se lancer dans d'immenses travaux. Vous voulez prendre part à cette opération, parlez-en à votre curé et à l'équipe d'animation paroissiale. Et puis après, vous donnez des indications. Partez deux par deux. On entend aussi peut-être l'invitation évangélique, hein, demander un kit au service communication du diocèse. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de gens qui se sont mobilisés, quelques exemples qui en effet sont simples mais qui disent des belles choses?
Oui, alors j'ai en tête trois ou quatre exemples. En Vallée d'Or et du Louron, par exemple, mais là, il y a vraiment de très, très beaux édifices religieux. On a préservé notamment des édifices de style roman qui sont magnifiques. Et puis, il y a ces croix. On voit toujours ces très beaux édifices. Et puis, ces croix, peut-être qu'on les a un petit peu laissées à l'abandon. Et là, le diacre qui est à l'œuvre dans ces vallées d'Or et du Louron, belle vallée pyrénéenne, eh bien, ça y est, il a constitué son équipe, il se lance dans une opération de nettoyage, pas forcément de rénovation, mais au moins de nettoyage d'un certain nombre de croix. Je pense aussi, on est encore dans les Pyrénées, dans nos vallées, à Cotteret, et dans l'Estrême de Salles, qui est un magnifique lieu aussi. J'invite ceux qui ne connaissent pas à s'y rendre, hein, c'est magnifique. Et là aussi, il y a une équipe qui s'est constituée. Autre vallée, la vallée de Batte-sur-Guère. Alors là, c'est tout près de Lourdes. Également, l'équipe s'est constituée. Elle est en route du côté d'Argelès-Gazost. Vous voyez, je vous cite des lieux où véritablement des paroissiens ont entendu cet appel, sont allés voir leurs voisins parfois, comme c'est le cas du côté d'Argelès, en disant « As-tu entendu cet appel de rénover la croix qui est non loin, qui est là au carrefour ?» Non. Ah, et si nous faisions équipe ensemble, c'est ce qui se passe, et en avant. Ils se mettent en marche.
Et puis
alors ils se mettent en marche non pas n'importe comment, c'est-à-dire il faut quand même contacter le maire, il faut que monsieur le curé soit aussi informé et d'accord pour que ça fasse cohésion, quoi, qu'il ne se soit pas vu comme des initiatives singulières que ce soit fait, si vous voulez, sans qu'il y ait une approbation, une forme d'adhésion, faut que ce soit consensuel.
Ouais. Vous invitez aussi, s'il le faut, à contacter donc le service des archives et patrimoine du département ou du diocèse. Et puis du diocèse, pardon. Et puis on peut imaginer en effet les conversations qu'il peut y avoir entre habitants. Vous invitez aussi à des petites cérémonies festives qui peuvent délier les langues et voire même à demander au curé de bénir la croix. Père Joseph de Kick, est-ce que ça vous donne des idées pour votre ensemble paroissial?
On a commencé, on a déjà fait quelques statues, quelques croix. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée.
Mathias Terrier, vous aviez une dernière réaction?
Oui, dans mon village, vous savez, à 50 mètres de ma maison, il y avait une belle croix qui était quand même en état un petit peu dégradé. Les gens du quartier l'ont rénovée, elle est superbe, magnifique, et je pense que tout le village est très fier. Il y a même eu une petite procession, bénédiction du curé, donc vous voyez, ça me concerne moi au premier chef.
Eh ben, merci beaucoup, Mathias, d'être venu pour nous parler de cette belle initiative qui a donné lieu la semaine dernière à un article dans le journal Famille Chrétienne. Et puis, si vous voulez en savoir plus parce que vous êtes dans ce diocèse et que ça vous donne des idées, eh bien, vous pouvez vous tourner vers le site internet du diocèse de Tarbes et Lourdes et essayer de joindre son service communication, entre autres une adresse email communication@catholique65.fr. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venu ce matin, de nous parler donc de cette réalité croissante, mais sur laquelle reste encore un certain nombre de questions, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de nos croix, comme l'y invite le diocèse de Lourdes. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.